La suite dans les idées depuis le jardin du Mons, une suite dans les idées en forme de conférence de presse autour de quelques spectacles, manifestations, expositions que l'on peut voir ces jours-ci au Festival d'Avignon. Et on commence par Anatomie Titus, Fall of Rome, de Heiner Müller, mise en scène de Philippe Vincent qui est avec nous aujourd'hui. Et depuis Quartet, qui était je crois votre première mise en scène montée ici même dans le Off en Avignon, c'était en 87, jusqu'à Mission en 98 et puis encore en 99, vous avez repris Quartet et d'autres textes de d'Heiner Müller dans une sorte de performance et vous avez également monté Germania 3 et Mauser, donc 99 c'était encore une année marquée au sceau de Heiner Müller. C'est un dramaturge qui vous accompagne depuis longtemps. Alors pourquoi cette obsession presque de revenir, ou ce besoin plus simplement de revenir constamment à l'œuvre de Heiner Müller?
Alors je pense pas qu'on peut parler d'obsession sur Heiner Müller. C'est vrai que ça fait depuis 87, puis il y en a eu d'autres, vous n'avez même pas tout cité encore, on a monté Paysages sous surveillance, Matériaux Médés.
Oui, je crois 9 en tout.
Oui, ça doit être 9 textes de Heiner Müller. Et il y a eu aussi des incursions, intrusions de Heiner Müller dans beaucoup d'autres textes qu'on a pu faire, dans Mademoiselle Julie, enfin un spectacle qui s'appelait Excitation sur Mademoiselle Julie de Strindberg. Donc ce compagnonnage avec Heiner Müller a été vraiment important. Alors la raison, pour moi, elle se situe sur deux choses assez distinctes qui sont quand même d'abord l'auteur, le poète et ses textes que j'aime beaucoup, qui me parlent, et aussi sa manière de se situer par rapport aux choses, par rapport aux autres œuvres. Que ce soit de Quartet où il se situe par rapport aux Liaisons dangereuses, de Hamlet Machine où il se situe par rapport à Hamlet, même dans toutes les autres mises en scène que j'ai pu faire, directement ou indirectement, le travail était lié à Heiner Müller. Enfin, ce que moi j'en dis, lui il dirait peut-être pas ça, que mon travail était lié à... Mais la perception que j'ai pu avoir ou que j'ai voulu avoir sur Heiner Müller, qui est une perception peut-être volontariste de voir des choses qui me sont propres à travers cet auteur, elle est vraiment liée à un travail assez global sur la position du comédien face à un texte, la position de la mise en scène aussi face à un texte. Qui n'est pas une position de servitude d'une mise en scène face à un texte, ni une servitude du comédien face à une mise en scène. Je crois que les choses se répondent et s'ouvrent vraiment comme ça dans le travail que je fais. Et il s'est trouvé qu'à travers cet auteur, Heiner Müller, j'ai trouvé ça.
Alors, Anatomie Titus, Fall of Rome, comme Macbeth, comme Hamlet Machine, font partie de ce qu'on appelle, ce que Heiner Müller appelait lui-même, la Shakespeare Factory. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire un mot, qu'est-ce que ça veut dire? Et est-ce que c'est à travers cette approche, justement, dont vous parliez, des textes du passé, à l'occurrence Shakespeare, des textes qu'il va revisiter, mais avec des intentions de dynamitage, de faire exploser, de faire voler en éclat l'œuvre de Shakespeare, dans le cas présent?
Alors, le cas de la Müller Factory, Shakespeare Factory autour de Müller, c'est quelque chose d'important, moi, qui m'a marqué. Je crois que le premier spectacle que j'ai vu, j'avais lu le texte avant, était le Hamlet Machine qu'avait monté Bob Wilson, qui était en tournée en France en 87, à l'époque où j'ai commencé à travailler sur Müller. J'étais beaucoup plus jeune. J'avais lu la pièce avant, j'avais rien compris du tout, vraiment rien. J'ai été voir le spectacle en me disant, bon, peut-être que quelque chose va m'éclairer dans la mise en scène. Et là, ça a été enfin, le choc a été encore pire, c'est que là, je voyais plus du tout où Wilson allait chercher les idées dans le texte. Je voyais pas le lien entre le texte et la mise en scène. J'arrivais pas à voir ça. Donc après, maturation a fait que je me suis dit, s'il ne les prend pas dans le texte, il les prend ailleurs. Et je crois qu'après, enfin, ce spectacle-là avait été important pour moi, justement sur la manière de se situer par rapport à une œuvre. Et la manière de Wilson, et je trouve qu'il est assez proche de la manière de Muller de se situer par rapport à une œuvre qui est... Qui est obligatoirement en décalage, où il va chercher plein d'autres choses chez d'autres auteurs, des bouts de phrases, des matériaux assez composites, des fois, comme a pu le faire même sous une forme un peu différente, mais l'approche que peut avoir Godard aussi sur le cinéma et sur la manière de construire les choses, qui est assez proche. Donc après, le travail qu'a fait Muller sur Shakespeare est vraiment important. C'était vraiment un de ses auteurs de référence autour du Hamlet, du Anatomie Titus qu'on présente là, du Macbeth aussi. Non, il n'y en a pas. Il y en a
Hamlet Machine, Macbeth,
peut-être un
Anatomie
autre encore.
Titus.
Ouais, nous, on en a fait d'autres aussi. On a monté le Richard III et le Timon d'Athènes aussi de Shakespeare. Dans une idée de déstructurer l'œuvre, de faire entendre des bouts de texte à l'intérieur du texte de Shakespeare qui ne sont pas forcément entendus, car si on est trop sur ce que nous donne l'auteur du texte et l'inconscient collectif qui baigne l'œuvre, je pense que des fois on passe à côté des choses et on se remet à faire ce qui est bien aussi, refaire une mise en scène ou une relecture de la pièce. Et après, dans le travail de déstructuration, puis de structuration après, on arrive à voir d'autres parties du texte, d'autres choses. On recrée quelque chose à partir d'un original, quoi.
Alors, on peut dire que le théâtre d'Heiner Müller est une sorte de carrefour entre l'histoire et le présent, entre des auteurs du passé, depuis les tragiques grecs, en passant par Shakespeare jusqu'au romantique allemand. Un carrefour aussi où se croisent les vivants et les morts. Il parle du théâtre en disant le théâtre est un accoucheur d'archéologie. Il y a cette dimension de l'histoire, pour lui, allemand, de demander ses comptes à l'histoire, de régler ses comptes avec l'histoire, de demander une réponse à l'histoire qui est très importante.
Oui. Alors, son rapport à l'histoire, il est quand même dans de mettre souvent des choses en parallèle. Et l'étude de plusieurs choses en parallèle. Je crois qu'il n'y a pas. Et puis moi, enfin, là-dessus, il faudrait le questionner lui, mais je crois que c'est beaucoup plus difficile maintenant. Mais sur la manière dont il a pu travailler, moi, je ne peux pas être au service de Muller sur lui qui n'a pas été au service des autres
Alors,
auteurs.
justement, Heiner Müller, qui a souvent monté des pièces de Brecht, qui a été un brechtien, il disait utiliser Brecht sans le critiquer, c'est une trahison. Alors, est-ce que c'est un peu cet adage que vous avez aussi adopté en mettant en scène Anatomie Titus, Fall of Rome, c'est-à-dire qu'il faut aller faire éclater ce qui est déjà.
Bah, oui. Après, dans la position vraiment où j'essaie de me situer par rapport à Muller, j'essaie pas trop de savoir ce qu'il a voulu dire, j'essaie de savoir ce qu'il a dit. Donc en gros, ce qu'il a écrit, ce qu'il nous livre. Bon, après, il y a ses interviews, il y a tout plein de choses qui ont bâti cette légende Heiner Müller, que lui a beaucoup créé aussi en essayant de se mettre devant son œuvre. C'est-à-dire que lui a été un masque devant l'œuvre un bon moment. Maintenant, il est mort et je pense que les choses sont vraiment différentes. Jour d'œil, on parle très bien justement de cette position où s'est mis Müller devant son œuvre, où il masquait son œuvre, le personnage masquait l'œuvre. Et maintenant, je crois qu'il faut essayer de redécouvrir vraiment l'œuvre. Et l'œuvre, c'est vraiment un moment d'oublier le personnage et de voir, de prendre les textes, de voir qu'est-ce qui est marqué dedans, quelle phrase est dite, la construction, comment sont dites les choses, écrites les choses. Et après, dans le travail, je ne veux pas trop me référer à lui. J'essaye d'oublier ça, que j'ai essayé d'oublier très tôt, même dans ma manière de... même quand il était encore vivant, que j'ai jamais voulu le rencontrer. J'ai jamais voulu le rencontrer parce que, par exemple, tout le monde me racontait la même histoire quand il avait rencontré Heiner Müller. En gros, il le retrouvait à Berlin, il y avait Müller qui se prenait une cuite, et puis Müller tenait beaucoup plus l'alcool que les autres, et tout le monde finissait à quatre pattes. Et plein de gens qui avaient rencontré Heiner Müller me racontaient cette histoire. Et à un moment, je voulais pas le rencontrer, j'avais pas envie d'avoir raconté encore cette même histoire. Je ne l'ai pas toujours considéré comme un auteur mort, mais pas loin. Je n'ai pas vraiment voulu avoir de rapport avec lui, même si du temps de son vivant, j'ai monté 6, 7, 8 pièces de lui.
Alors, Anatomy Titus, Fall of Rome, c'est 70% Shakespeare, 30% Heiner Müller. Et dans votre mise en scène, combien de Philippe Vincent ?
Bah,
100%. Si on peut dépasser le
au niveau de mise en scène, 100%. Hein.
Cette pièce raconte l'histoire d'une tentative vouée à l'échec, qui est celle de la conciliation entre les Romains et les barbares et les Goths, entre donc deux peuples qui essayent de vivre une intégration, une assimilation, et évidemment.
Ça se passe mal.
Alors, vous avez choisi un parti pris qui est celui de faire interpréter les Romains par des femmes uniquement, des comédiennes, et les Goths par des hommes. Alors, pourquoi ce choix ?
Je crois que la chose la plus importante, déjà, pour essayer d'évacuer un propos qui aurait pu être sur l'intégration des banlieues, sur plein de choses actuelles qui sont auxquelles j'ai pas forcément envie de faire référence concrètement. À un moment, il était pour moi le problème de stigmatiser quelque chose sur le plateau de mettre toutes les femmes donc qui jouent des rôles d'hommes, qui jouent aussi des rôles de femmes en romain, et les Goths qui jouent aussi des rôles de femmes, notamment le rôle de Tamora, et d'essayer de voir cette confrontation, ce face-à-face qu'il peut y avoir avec les deux, comment les choses vont se mélanger. Donc je crois qu'on n'est pas sur un... l'idée n'est pas de faire aussi un discours sur l'homme et la femme, comment ça se rencontre. C'est pas est-ce qu'ils vont être amoureux, est-ce qu'ils vont coucher ensemble, c'est pas ce propos n'est pas là, quoi. Le propos, il était vraiment de stigmatiser deux choses en montrant des fois des choses qui ont une certaine fulgurance sur le fait de ce choix de distribution, des fois des choses qui sont fausses, qui tapent faux, mais du coup ça tape tellement faux qu'on peut remettre on remet les choses dans l'ordre soi-même. Le but n'était pas d'être juste absolument sur ce choix de distribution, mais vraiment de stigmatiser cette chose-là et comment les gens vont se rencontrer à cause de la voix, à cause du physique, à cause de tout ce qui peut les différencier concrètement sur un plateau. Et comment ils vont se mélanger, comment ça va exploser, quoi.
Alors, vous avez projeté à l'intérieur de votre mise en scène des images filmées. Deux sortes d'images filmées, je crois, dont une a un cinémascope.
Voilà.
Et alors, quel est le rôle de ces images à l'intérieur de votre mise en scène ?
Alors, le travail qu'on fait, parce que bon, c'est pas la première fois qu'on fait du cinéma au théâtre, du théâtre au cinéma. On a depuis une dizaine d'années, on travaille sur ces rapports-là. L'un des premiers spectacles qu'on avait fait là-dessus, c'était en 95. On en a fait d'autres avant, mais je donne celui-là à titre d'exemple parce que je trouve qu'il est assez significatif du travail qu'on a pu faire. On avait monté l'affaire de la rue de l'Oursine, de la Biche. Donc en fait, le postulat de départ du spectacle avait été de tourner le film, l'affaire de la rue de l'Ourcine, entièrement dans des décors réalistes. On s'était inspiré un petit peu de l'accord de Hitchcock avec des grands plans séquences dans un appartement bourgeois et les choses qui se passaient un peu inspirées du Technicolor années 50, on va dire. Donc ça, c'est tout le spectacle était. Il y avait ce film qui avait été tourné et on avait enlevé le son du film. Et après, sur la scène, le film commençait sans le son, et tous les comédiens étaient sur le plateau et faisaient les bruitages et les voix des comédiens. Donc il y avait des micros, on faisait les pas, le bruit des portes, tout se passait.
Une sorte de doublage.
C'était un doublage, l'idée étant de faire vivre ce film. Et donc dans ce contexte un peu paranoïaque de l'affaire de la rue de l'Ourcine, où les gens se rendent compte de ce qu'ils ont fait, les comédiens, eux, voyaient défiler le film devant eux, et avec tout ce qui se passait dedans, et eux étaient obligés, confrontés à leur image, et obligés de faire vivre ce film. Après, bien sûr, la situation changeait, et ce qui se passait sur scène était différent de ce qui se passait à l'écran. Ils devaient se détacher de cette image. Donc après, on avait fait ça, et il y avait en prologue le paysage sous surveillance de Heiner Müller, qui aussi est le texte de Heiner Müller, Paysage sous surveillance, qui est une description d'un tableau fixe où la personne se demande pourquoi, à l'instant de l'image, la situation s'en est arrêtée là, et qui essaye de trouver pourquoi la femme est couchée. Elle a l'air morte, peut-être elle n'est pas morte. Peut-être que si elle est morte, c'est parce que l'homme qui est là-bas au fond de l'image l'a tuée, ou peut-être que en fait elle était morte avant et qu'il vient de la déterrer. Donc pendant tout le texte, la situation se pose à savoir pourquoi cette image s'en est arrêtée là. Donc on avait mis ces deux choses en parallèle, donc l'histoire de ce film où on voyait l'image et les comédiens voyaient cette image, et ce premier texte où il n'y avait pas de film du tout. Donc ça avait un peu choqué les spectateurs qui avaient acheté dans leurs abonnements la place, l'affaire de la rue de l'Ourcine, et qui se retrouvaient avec un prologue de 20 minutes sur un texte relativement complexe de Heiner Müller, Le paysage sous surveillance. Et après, du coup, dans l'affaire de la rue de l'Ourcine, on arrivait à un schéma dramatique, scénographique, qui ressemblait un peu au tragique grec, avec sur l'écran projeté sur la scène les héros. Le mythe du XXe siècle, le cinéma, et le cœur des comédiens en dessous, essayant de refaire vivre ce mythe au spectateur. Et après, le rapport que ce cœur en bas pouvait avoir avec cet écran et avec le spectateur. Donc on retrouvait cette forme un peu tragique du théâtre, au niveau de la scénographie, même du sens que ça pouvait procurer. Donc sur Anatomie Titus, le travail qu'on a fait a des accents un peu aussi sur la post-synchronisation d'un des personnages qui apparaît à l'écran. Or là, on est sur une chose un peu différente, parce que l'idée au départ était de filmer. Donc c'est filmé en 16 mm, en cinémascope. Les images c'est assez beau, c'est assez léché. Et l'idée, c'était d'être sur les paysages dans lesquels pourrait se dérouler l'action. Et en fait, dans ces paysages apparaissent des fois les personnages de Shakespeare, dont ce fameux noir Aaron qui intervient là-bas, et donc son image intervient là-bas, et les comédiens sur scène se réfèrent à son image, à cette image du mal absolu, du manipulateur. Donc en fait, on pourrait avoir la sensation qu'il manipule depuis son image, mais en fait, c'est les gens sur scène qui manipulent. Lui n'est qu'une image donnée, quoi.
Merci Philippe Vincent pour Anatomie Titus, Fall of Rome de Heiner Müller. Avignon rend hommage à Gao Xingjiang, à la fois à l'écrivain, au dramaturge, au peintre, à celui qui a reçu en décembre 2000 le prix Nobel de littérature. Et c'est en Avignon, grâce à Alain Timard, fondateur du Théâtre des Halles, que l'on a pu voir pour la première fois l'une de ses pièces, Au bord de la vie. C'était en 93 et Gao était alors pour la plupart un inconnu. 8 ans plus tard, c'est toujours le Théâtre des Halles qui consacre une large part de sa programmation à l'œuvre de Gao, avec non seulement la reprise dans une nouvelle mise en scène de Timard de Au bord de l'eau, mais également une lecture, Le livre de l'homme seul, une version scénographique du discours de Stockholm, La raison d'être de la littérature, la reprise de Dialoguer interloqué, qui avait été créée en 1999 à Bordeaux, dans des décors et une mise en scène de l'auteur, tandis qu'au Palais des Papes, on peut découvrir une rétrospective de l'œuvre peinte de Gao, donc l'écriture dramatique, la mise en scène, la peinture, autant de facettes inséparable de votre travail, Gao, que vous avez toujours voulu mener de front parallèlement, mais est-ce que cela a toujours été le cas? Est-ce que l'écrivain est né avant le peintre ou l'auteur de théâtre avant l'écrivain?
Cette passion et ou bien ce plaisir de peindre ou bien de faire le théâtre ou bien de l'écriture, c'est plutôt dès mon enfance, parce que j'ai une famille très très libérale qui est assez rare en Chine à l'époque. Voilà, cela, j'avais une condition très très favorable à pratiquer tous ces genres de choses. Bon, c'est pour moi le théâtre ou bien la peinture ou bien l'écriture. Ce n'est pas une profession, plutôt d'abord c'est une passion tout à fait personnelle. Moi, cette distinction de métier, peu importe pour moi, mais chaque fois quand on pratique dans une forme ou bien une discipline, un genre de création, il faut chercher sa propre raison d'être.
Alors, avant de quitter la Chine, où vous êtes né en 1940, et de choisir la France comme pays de votre exil en 87, vous aviez déjà travaillé, écrit pour le théâtre, plusieurs pièces, Signal d'alarme en 82, qui était considéré comme l'une des pièces les plus novatrices, enfin, qui a ouvert une nouvelle voie pour le théâtre en Chine. L'arrêt de bus en 83, c'est une pièce qui a été interdite et qui a fait de vous une cible du mouvement contre la pollution spirituelle. Alors, comment aujourd'hui vous voyez cette période de votre vie? Comment votre écriture a évolué depuis cette époque-là, écriture théâtrale?
Oui, c'est déjà loin, hein, comme une autre vie qui a déjà passé. Et depuis lors, j'ai déjà publié, écrit 18 pièces. Voilà, on a monté un peu partout dans le monde. Et je fais souvent ma propre mise en scène aussi. Et les pièces dont vous parlez tout à l'heure, c'est déjà très très loin. Mais il y a quelque chose qui tient encore. Parce qu'on a mal interprété, d'abord, les critiques des autorités chinoises officielles. Ils ont donné tas d'étiquettes, et puis alors, cela a été collé jusqu'à aujourd'hui. Par exemple, la pièce L'arrêt de bus, pour moi, c'est tout à fait une comédie lyrique, et qui n'a pas un engagement politique, un sens politique, mais à leurs yeux, c'est très dangereux. Voilà, c'est leur interprétation. Et puis, là, cela a collé sur mon travail. Mais je devrais dire, là, il y a 2 ans, au Japon, il y a une petite troupe de théâtre qui a monté cette pièce-là, tout à fait à la japonaise, dans une situation socialement tout à fait différente. Ils trouvent que c'est vraiment leur comédie de tous les jours.
Mais alors, par rapport à ces pièces-là, justement, des années 80, avant votre arrivée en France, les pièces que vous avez écrites une fois arrivées ici, au bord de l'eau, par exemple, au bord de la vie, pardon, au bord de la vie, qui est, je crois, votre première pièce écrite en français.
Oui, c'était encouragé par des amis. Alors, c'était une commande du ministère de la Culture. Voilà, puisque ça c'est une commande française, alors j'étais obligé d'écrire directement en français. C'était très très difficile. Mais une fois lancé là-dedans, j'ai éprouvé vraiment le plaisir de cette écriture. Et maintenant, j'ai déjà écrit 4 pièces en français. Et la dernière, qui est de la mort, c'est tout récemment lu au studio de la Comédie-Française. Et bon, je pense je vais continuer à écrire de plus en plus et en français, surtout pour les pièces de théâtre.
Mais est-ce que ces pièces-là sont des pièces plus intimes par rapport à celles que vous écriviez avant en Chine? Parce que quand on prend par exemple Au bord de la vie, c'est une pièce à 3 personnages, mais en réalité il y en a un seul qui parle. C'est une femme qui raconte sa vie en essayant de recoller les morceaux, de lui donner une cohérence. Et puis il y a 2 autres personnages muets, un danseur et puis un homme, une sorte de fantoche ou de pantin qui est tiré par des fils dans la mise en scène de Timar. Et puis. Dialoguer interloqué, c'est un couple, c'est un dialogue ponctué là aussi par une présence muette qui est celle d'un danseur. Donc ce sont des pièces qui se resserrent quand même sur un individu ou sur un couple.
Oui, c'est vrai, cette série de pièces, surtout écrites en français, c'est plutôt comme dit-on, sur l'intérieur, l'intimité d'un individu. Voilà, tout ce qui se passe, cet espace-là, ces événements sur la scène, c'est pas un événement, une action, souvent vraiment réelle. Plutôt, ça se passe, c'est pas un événement. Une vraie action, mais plutôt c'est une action invisible. Mais je rends cette invisibilité, ces visions invisibles par le théâtre, par le jeu de comédien, par le travail de la mise en scène, rendre l'invisible visible. Ça, c'est de recherche de cette série de pièces.
Alors, dans ces 2 pièces, il y a toujours cette présence muette qui ne s'exprime que par la danse, par le mouvement. C'est comme une forme de contrepoint. Où est-ce que ces personnages de danseurs peuvent faire penser, par exemple, aux fantômes qui sont si important dans la tradition du théâtre d'Extrême-Orient, que ce soit en Chine ou au Japon. Par exemple, dans Dialogue interloqué, le couple se tait chaque fois que le moine danseur apparaît.
Oui, ce contrepoint sur la scène, c'est comme dans la musique, je pense, à créer une théâtralité. Aussi, ça rend le texte dramatique. Sinon, c'est surtout cette crise, ces difficultés de relation entre l'homme et femme. Souvent, c'est ennuyeux et difficile, angoissant. Mais s'il n'y a pas ça, à côté un autre regard qui. Et un autre regard neutre, comme celui-ci, ce moine, qui représente, qui est réalisé par un œil neutre, que je peux appeler troisième œil. C'est une conscience humaine qui est en fait pour tout le monde, vit à l'intérieur. Mais souvent, on a oublié que dans une émotion, bien dans une crise, on a oublié, on est coincé là-dedans. Si on peut se retirer un peu, recourir à cette conscience, à ce troisième œil neutre, alors ça devient peut-être ridicule. Il y a un sens humour fait son apparition.
Dans votre discours de Stockholm en décembre 2000, vous mettiez l'accent sur l'individu, sur l'écrivain qui doit être solitaire, retiré de la politique, vous disiez, revenir à la voix de l'individu. Vous parliez même d'une littérature froide, ce qui est peut-être difficile à comprendre pour nous. Qu'est-ce que ça veut dire, littérature froide?
Oui, parce que ça c'est le 20e siècle, surtout, c'est le 20e siècle, la politique a tellement influencé la littérature. Cet engagement politique ou bien une littérature engagée, c'est très très répandu cette notion sur la littérature. Et beaucoup, moi, je trouve ça c'est influencé. Alors, c'est une influence néfaste, moi, je trouve. Je veux plutôt me dégager de cet engagement politique. Parce que c'est un écrivain qui parle d'abord il est c'est un individu vivant qui a tous ses complexes dans sa vie. Et un engagement politique, c'est plutôt ça, c'est un côté social tout petit dans la vie. Mais la littérature a dépassé largement ces critères, ces valeurs politiques ou bien sociales. Si on veut montrer vraiment les conditions d'existence humaine, il faut une littérature indépendante de tout intérêt politique ou bien de toute contrainte des mœurs ou bien des codes sociaux. Dans ce cas-là, bon, je défends une littérature froide qui est vraiment indépendante, mais ça ne veut pas dire que dans la littérature qui ne touche pas, la littérature ne touche pas la politique. Mais si l'écrivain touche bien ou parle de la politique, mais d'abord il faut être un individu vraiment vivant, pas un représentant d'une collectivité ou bien du peuple ou bien d'une classe ou bien d'un parti ou bien d'une nation. Je pense que ce sera là, à ce temps-là, une voix plus vivante,
Et
plus vraie aussi.
est-ce que le prix Nobel a contribué à votre reconnaissance en Chine? Est-ce que les choses ont changé pour vous en Chine? Est-ce
Non,
que
non,
vous êtes
rien.
lu? Est-ce que vous êtes publié d'abord, lu? Est-ce que vos pièces sont montées, vos peintures montrées?
Au contraire, ça c'est une fois annoncé cette nouvelle-là, comme toute actualité, eh bien tout de suite il y a deux journaux en Chine. À ce temps-là, ils ont tout de suite publié ces nouvelles, bon, avec un ton de félicitations un peu heureuse, mais tout de suite il y a directive venant des autorités centrales du Pékin. Alors on a interdit de parler, de figurer mon nom dans la presse. Et voilà, tout récemment, j'ai entendu dire. D'ailleurs, on a réaffirmé la censure de tous mes écrits, voilà, très strictement. Et tout récemment, je suis au courant par un ami, il y a une revue à Shanghai dans laquelle on a figuré une photo avec deux sinologues suédois. Et bon, dans un interview, on a seulement parlé, cité un peu mon nom, mais en général, cette interview parle de l'ensemble de la littérature chinoise, surtout de la traduction, de la présentation de la littérature chinoise en occitan. Mais il y a deux ou trois questions-réponses touchent mon problème. Voilà, cette revue a été tout de suite censurée, la revue totale. Et tout le personnel, maintenant, ils n'ont plus de travail.
Est-ce que vous suivez l'actualité, ce qui se passe en Chine, aussi bien sur le plan politique que sur le plan culturel? Est-ce que vous en avez des échos par des amis, des intermédiaires? Est-ce que c'est quelque chose qui vous préoccupe?
Maintenant, oui, je m'intéresse toujours à ce qui se passe en Chine, mais je vis en Occident depuis déjà 14 ans. Voilà, ça, j'ai tout à fait une autre vie. La Chine, pour moi, c'est plutôt du passé. Mais comme tout le monde, ce qui se passe en Chine, oui, bien sûr, je m'intéresse, mais plutôt une angoisse, parce que ça ne se passe pas tellement heureusement là-bas. Et surtout, je ne peux pas vraiment prendre contact avec des amis, sinon ça va causer, comme ce journal-là, comme cette revue-là, ça va causer des ennuis, malgré que, quoi que je fasse jamais la politique. Mais c'est le cas, c'est la réalité maintenant en Chine. Cela m'a empêché de vraiment parler de la Chine, parce que j'en ai vraiment marre.
Gao, on peut découvrir en ce moment, en Avignon et jusqu'au mois de novembre, je crois, au Palais des Papes, dans la Grande Chapelle, une rétrospective de votre œuvre peinte, une centaine de grands formats, de petits formats, Encre de Chine, La vie, qu'on découvre parce que connaît votre écriture. On peut voir ici des pièces de vous, mais ces tableaux, ces peintures ont été rarement montrées. Encore que je crois que c'est Avignon, là aussi, qui a le mérite de les avoir montrées en premier.
Et avant, c'était à Lille-sur-Sorgue. Madame Barbu, elle a une galerie, c'est la Dôme des Cardinaux. Chaque année, depuis presque 9 ans, chaque année, il y a une exposition personnelle. Mais c'est toujours restant quand même dans un petit cercle des amis. Pas cette fois-ci, ça c'est, j'ai la chance, vraiment la chance d'être exposé, voilà, grâce à Madame Dominique Vintin, dans ce lieu historique et prestigieux, puisque ça c'est Picasso a été exposé. Bon, j'ai la chance d'être exposé dans ce lieu magnifique et avoir ma première exposition rétrospective en une grande envergure. Voilà, c'est pour moi, c'est vraiment très très important.
Alors, dans le texte que vous avez écrit et qui accompagne cette exposition, un texte où vous parlez à la deuxième personne, c'est comme un dialogue avec vous-même. Dans ce texte, vous vous définissez comme un peintre anachronique. Vous dites rechercher de plus en plus la perfection et que cela a un goût quelque peu démodé de chercher la perfection.
Oui, c'est aussi une réflexion sur l'art d'aujourd'hui, sur l'art de notre époque. Et ce n'est pas simplement, comme dit-on, une théorie sur mes propres tableaux. C'est une réflexion un peu plus large. Bon, j'étais invité à la Napoule, dans un château. À la Napoule, c'était une fondation franco-américaine qui m'a invité, et avec l'aide de l'écriture de Drac, de la région du sud de France, bon, je devrais rendre une mission et à devoir, je devrais laisser un texte à ce temps-là, oui, d'ailleurs, dans une situation tellement agréable. Alors oui, je travaille nuit et jour, alors ce texte-là est enfin sorti. Mais ça servit, maintenant, c'est comme dans ce catalogue de l'exposition, où il y a aussi traduit, ce texte traduit par mon ami, mes amis, le couple Noël Dutrait. Bon, ça, c'est... C'est pas une critique, c'est pas une critique. J'aime pas critique. Je pense devant l'art, c'est impossible de juger. Voilà. D'ailleurs, j'ai horreur d'être à la place du juge, parce que je suis trop souvent jugé par les autres. C'est pourquoi j'aime pas ce rôle-là. Mais dans ce texte-là, il y a plutôt des réflexions sur les courants, les modes. Les arts d'aujourd'hui, moi, comme dans mon écriture, je préconise à côté de tous ces courants dominants. Voilà. Je persiste à mon propre travail tout à fait personnel. Je travaille à une vision aussi personnelle, mais heureusement qui est communicable, qui a touché les autres spectateurs. Bon, j'ai eu déjà beaucoup de bonnes réactions. Voilà, ça montre ce genre de travail a aussi sa place dans les arts d'aujourd'hui.
Donc un travail qui à la fois prend une distance par rapport à la peinture traditionnelle et à la fois prend ses distances et combien par rapport au mode actuel. Et quand on voit ces peintures, on est frappé par tous ces dégradés de gris, ces nuances du noir. Et j'étais frappée surtout par la présence constante, presque dans chacune de ces peintures, d'une forme centrale, plus ou moins sphérique, qui est comme une sorte de creux, de vide, pour accueillir notre regard, en dehors de toute narration, de toute figuration ou de toute anecdote.
Oui, pour moi, la peinture, c'est ce qui est hors de la langue. Qui dépasse les paroles, dépasse les mots, les concepts, c'est seulement tout à fait un langage de regard. Quand on regarde quelque chose, on ne demande pas si c'est figuration ou bien abstraction. on voit les choses. Surtout quand on voit ce que je pense, c'est plutôt une vision intérieure qui est insaisissable, qui est toujours dans le mouvement, qui évolue à tout instant. Voilà, il faut, si on veut regarder, capter cette vision intérieure, il faut beaucoup d'efforts et subtilité, et saisir cet instant. Voilà. Dans ce cas-là, c'est la fluidité de l'encre, ça aide beaucoup. Voilà. Aussi l'encre, les différents de tons, de gris, de noir, tout ça, ça peut, en fait, c'est tellement riche, les tons, la variation des tons dans l'encre, diluée avec de l'eau. Et ça correspond aussi à ce regard intérieur. Parce que quand on même si on... Si on ferme les yeux, il y a souvent une vision qui flotte. Et on trouve, si ça se voit, parce qu'il y a toujours une lueur intérieure. Voilà, ce ton varié, sacré, cette lueur-là. Alors, dans ce cas-là, c'est une peinture qui est hors le classement de la abstraction ou bien de figuration, mais qui s'adresse toujours à une vision qui est hors de question de concept sur l'espace. Bon, c'est un espace intérieur impossible de faire une analyse. Par exemple, dans mes tableaux, souvent on croyait que c'est un paysage, mais il n'y a pas de perspective. Normalement, comme dans la peinture de paysage. D'ailleurs, cet espace intérieur, où est l'horizon, on ne trouve pas.
Il n'y a pas de profondeur de champ.
Oui, c'est ça. Aussi, c'est le focus. C'est comme la caméra. La lumière n'est pas suffisante, alors ce focus capte qui est toujours en mouvement. Voilà, je pense que le regard, c'est l'invention technique tout à fait, le reflet de vrai regard de l'homme. Oui, mais quand on regarde vraiment les choses avec attention, ce n'est pas simplement une vision fixe, c'est une vision toujours qui est dans le mouvement, qui change. Bon, j'essaie de capter ces moments-là, cette attention de regard. Si je veux faire quelque chose, c'est plutôt, je trouve que c'est toujours, ça m'indique toujours. Et j'arrive jamais à finir un tableau. Sinon, sauf quand la date de l'exposition est déjà fixée, on est obligé de remettre, de finir les tableaux. Moi, je pense que les tableaux, c'est vraiment difficile de finir.
Alors, il n'y a pas de calligraphie dans vos tableaux, contrairement à la tradition chinoise où les poètes peintres mettaient toujours des vers, des mots, intégraient toujours des vers à leur peinture.
C'est vrai, parce que ça, c'est la peinture traditionnelle chinoise, c'est plutôt issu de l'écriture, de la calligraphie. Moi, je trouve que la calligraphie et l'art plastique, c'est les deux choses différentes. L'écriture, la calligraphie, ça vient plutôt de la littérature. Voilà, ça peut être un art, mais on ne s'adresse pas à la vision. Mais quand on s'adresse à la vision, on devrait vraiment peindre. Comme l'art occidental. D'ailleurs, j'ai commencé à faire la peinture quand j'étais tout petit. C'était d'abord, je fais la peinture, l'aquarelle, peinture à l'huile, fusain, crayon, tout ça. C'était à la peinture occidentale. Je suis formé, voilà, toutes ces techniques-là. Et puis, je reviens à l'encre. Plutôt, c'est automatiquement. Toutes ces techniques, ces expériences dans la peinture occidentale et fusionnées dans mon encre. C'est pourquoi c'est pas, dans ce sens-là, c'est pas du tout traditionnel.
Alors, puisque vous écrivez que vous ne trouvez réconfort et joie qu'en peignant et que les déclarations, même sur votre peinture, ne vous procurent que des maux de tête, je vais peut-être vous laisser tranquille. J'espère que vous n'avez pas trop de migraines après avoir parlé. Et je vais peut-être poser une dernière question à Dominique Vintin, qui est donc conservateur et qui a préparé cette exposition au Palais des Papes, exposition de vos œuvres, Gao. Dominique Vintin, tout à l'heure, Gao ne m'a pas vraiment répondu quand je lui ai rappelé qu'il se définissait comme un peintre anachronique. Est-ce que pour vous, Gao fait partie des peintres démodés?
Évidemment non, mais je crois que ce qui est intéressant plutôt de savoir si c'est ou non un peintre démodé, c'est de considérer la position qu'il a choisie, qui est finalement de ne pas se préoccuper de tout ça, de ne pas se préoccuper de savoir si oui ou non il est démodé, si oui ou non il est dans la tendance, comme on dirait aujourd'hui. Et je trouve que ça, c'est une prise de position extrêmement intéressante aujourd'hui. Et c'est aussi une des raisons qui nous a poussé à ouvrir et à organiser cette exposition qui est déjà très très demandée partout en Europe et même dans le monde dans les mois et les années qui vont
sauf
suivre.
Sauf en Chine.
Oui, et je crois que ça aussi c'est une réponse tout à fait intéressante à votre question. Je crois que aujourd'hui Gao Xingchang est un peintre d'aujourd'hui qui affirme une position individuelle, particulière, tout à fait intéressante et qui a touché, je crois, le public.
Merci à Gao Xingchan. L'exposition donc au Palais des Papes, c'est jusqu'au 4 novembre, je
4
crois.
Novembre.
4 novembre. Et puis des pièces à voir et au Théâtre des Halles en Avignon. Merci.
Merci.
Et on termine.